France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Stanislas de Barbérac. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 1984, le 27 avril. Donc c'est bientôt mes 40 ans. Et je suis ténor.
Aujourd'hui, artiste à la carrière internationale, Stanislas de Barbérac évoque pour nous ce qu'implique ce mode de vie, en particulier ces longues semaines de répétition loin de chez soi. Ce sont beaucoup de sacrifices.
Ouais, ça c'est lourd ça, et ça me coûte de plus en plus. Parce que maintenant, on est 5, hein, donc j'ai 3 enfants, et la vie à 5, c'est pas pareil. Puis une fois que les grands sont scolarisés, on peut pas les sortir de l'école quand on veut non plus, parce qu'ils sont à un certain niveau scolaire où c'est plus compliqué. Donc ça me coûte maintenant. Le temps qu'on passe en répétition, parfois, on peut pas rentrer. Puis maintenant, les metteurs en scène, quel que soit le rôle, ils veulent qu'on soit là tout le temps, parce qu'en fait, ils ont pas organisé leur période de répète, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont faire tel ou tel acte. Donc parfois on est là une semaine bloqué à Berlin et en fait on a travaillé 2 jours, donc c'est pénible. Tous les chanteurs connaissent ça, bon, c'est comme ça.
Là on se rend compte d'une période où justement c'était arrivé une forme de trop-plein. On parlait de Mozart, on disait oui, il y a un rôle intéressant d'un homme plus mature hein, qui est Idoménée, qui est un rôle magnifique. Ou c'est vrai qu'on vous attendait dans cette prise de rôle à Genève. Vous avez abandonné la production parce que justement c'était trop, vous sortiez d'un tunnel entre la Scala.
Exactement, c'était trop et c'est de ma faute hein. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, et en même temps ce sont des circonstances, parce que Idoménée était une production qui m'avait été proposée par Genève avec mon ancien agent. Ensuite j'ai donc changé d'agent pendant le Covid, donc Idoménée, la proposition date d'il y a longtemps, hein. Et j'avais très envie de chanter Idoménée, et avant Idoménée il n'y avait rien sur mon planning, c'est-à-dire que j'avais le temps, comme c'est une prise de rôle, que c'est très long, il y a beaucoup d'apprentissage. Il faut mettre la voix dans un certain trou. Voilà. Et après, avec le nouvel agent, est arrivée une proposition de la Scala de Milan de chanter Jason. En même temps, Berlin me propose de chanter Jason.
Jason, c'est Médée.
Médée de Cherubini, en français. Et donc, d'un point de vue stratégique, ça tombait bien de le faire à Berlin, puis de le faire à Milan, les deux en français, avec la même chanteuse. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ensuite, pendant ce laps de temps, le Covid, etc., la prod a bougé à Genève. Et la prod s'est rapprochée de m'aider à Milan. Et là, j'aurais dû dire « Ah, c'est dangereux », et je ne l'ai pas dit. Et je n'ai pas pris la décision de dire « Soit je fais Milan, soit je fais Genève, mais je ne fais pas les deux. » Et voilà, est arrivé ce qui est arrivé, je pouvais pas non plus imaginer, parce que je savais pas qu'il allait aussi m'arriver des trucs perso dans ma vie, et qu'il m'allait m'arriver des choses autour, que ça allait être un tunnel, que j'avais pas vu ma famille depuis 7 semaines, que la production à Milan a été chaotique parce qu'il y a eu des maladies, parce que j'ai changé de médé 4 fois. Ça arrive, je veux dire, c'est pas de leur faute, mais donc émotionnellement pour moi, c'était compliqué quoi, parce que je savais pas comment j'allais chanter 10 minutes pendant mon maquillage, je savais pas qui j'avais, je savais pas si ça allait être quelqu'un en scène, si ça allait être quelqu'un avec un pupitre, alors qu'on a répété depuis 6 semaines à Milan, enfin c'est du travail, on a établi quelque chose, une dramaturgie, un personnage, et donc tout ça est chamboulé malgré tout, c'est pas de la faute de la soprane qui vient, hein. Les chanteurs savent ça, mais bon, la pauvre, elle peut pas s'avaler de mise en scène, surtout de m'aider, enfin c'est un rôle écrasant. Donc c'était dur et que voilà, je devais commencer mes répètes après chaque spectacle de m'aider à Milan. Donc je prenais le train à 7h en m'étant couché à 1h, je répétais 48h à Genève, je revenais, je chantais à Milan, je repartais à Genève. Enfin c'était trop. Je me suis fatigué vocalement et émotionnellement. Et donc mon corps m'a dit stop quoi. Voilà. Donc c'est jamais facile à prendre parce que j'ai bossé vachement pour apprendre Idoménée. Bon, c'était pas du travail en l'air, mais c'est toujours frustrant, on ressent ça comme un échec. C'est toujours difficile de partir et de laisser ses collègues parce qu'ils ont mis des choses en place avec moi, parce qu'Idoménée, il est là tout le temps quand même. Mais en même temps, il fallait que je pense à moi et j'avais besoin de rentrer chez moi parce que je sentais qu'à la maison, c'était aussi tendu parce que c'est difficile d'être toute seule avec 3 enfants alors qu'elle en a 30 toute la journée parce qu'elle est enseignante et que moi, je suis tout seul, quoi, aussi. Et que j'ai besoin de voir mes enfants qui sont dans des âges où ils ont besoin de leur papa. Donc il y a ce poids-là aussi à gérer. On se dit, je vais traverser le tunnel, je rentre le 1er mars, après j'ai du temps. Mais en fait, non. En fait, je culpabilisais, en fait, je me fatiguais vocalement parce que Jason, Idoménée, c'est pas le même trou. Jason, ça a l'air de rien, mais c'est inchantable. C'est très difficile à chanter, Jason, parce que c'est à la fois classique. Je l'ai chanté en 430 à Berlin, c'était en 442 à Milan.
Donc ça, c'est le diapason.
Ouais, c'est le diapason, pardon. Selon c'est pas les mêmes orchestres, j'avais un orchestre baroque à Berlin. Bon, bref, ça a été un tunnel, quoi. Et quand c'est un tunnel vocal, et qu'on commence à se fatiguer, qu'on se lève le matin et qu'on se dit « Waouh, je devrais pas être fatigué comme ça vocalement, c'est pas normal. » Mais c'est parce qu'on voyage, parce qu'on dort mal, parce qu'on pense à plein de trucs, parce qu'on a le stress d'être prêt pour Idoménée, parce que c'est son parcœur qui chemine dans sa tête à chaque fois qu'on marche dans la rue, qu'on va faire ses courses, qu'on prend sa douche. Et puis à Milan, on ne sait pas avec qui on va chanter alors qu'on revient de Genève. Enfin, c'était un enfer, quoi. Et à un moment donné, c'est trop, quoi. Mon ORL m'a dit, c'est trop. Mon coach m'a dit, c'est trop. Mon agent m'a dit, c'est trop. Et moi, je me suis dit, j'ai le droit de me dire que c'est trop. Donc, je suis rentré. C'est pas tout l'opéra pour moi. C'est ce qui me fait vivre. C'est une vraie passion, le chant. Le chant, c'est une vraie passion. La nuit achève sa carrière. Bientôt va renaître le jour. Et là, sa triste lumière.
Vous avez parlé de l'année charnière 2014 à plein d'égards. Il y a une autre année charnière qui est l'année Covid. C'est unisson qui se crée, c'est-à-dire vous, chanteurs, artistes de l'opéra, vous vous fédérez entre vous. C'est aussi une forme d'étincelle, en fait, qui réveille beaucoup de questions qui étaient déjà là avant et qui perdureront après sur l'opéra, le rôle du chanteur d'opéra et peut-être, à un certain endroit, la dichotomie entre le fantasme qu'a le grand public de la vie d'opéra et la réalité aussi, qui est celle du chanteur d'opéra. Ça a été, j'ai l'impression, un pivot pour vous qui avez été beaucoup aussi investi et porte-parole de cette fondation Unisson.
Oui, parce qu'en fait, avec le Covid, tout s'effondre. Vraiment. Moi, je l'ai vécu en prod. J'étais à Paris, on faisait une reprise de Don Giovanni de Ivo van Hove. Et Stéphane Lissner arrive et on dit, vous rentrez chez vous. Voilà. On voyait que le Covid arrivait petit gentiment, mais nous, on répétait. Depuis 3 semaines, on était là, on rentrait, on sortait. On n'avait pas de masque, on savait qu'il y avait un truc qui se passait dans le monde, comme tout le monde, et on pensait que ça allait arriver qu'aux autres. Et puis, un jour, il arrive et dit, désolé, on doit fermer. Et là, on rentre chez soi, quoi. Et puis, on repart pas de chez soi.
Et c'est là que j'ai aimé être chez vous, alors là, c'est
ouais, là, j'étais content. Non, mais best life, Mars, avril, on se dit, c'est une étape, on avait cette insouciance-là. Il faisait beau, moi, j'étais chez moi, et puis, on se disait, ce truc va passer, quoi. Puis là, on est en septembre, et puis là, on est en décembre, et tout est fermé. Et puis toute la peur que ça a généré aussi, qu'on voyait dans les médias, et puis surtout pour notre métier, parce qu'on n'a jamais vécu ça, dans plein de métiers d'ailleurs. Mais dans le monde de l'opéra, on se rend compte de notre statut, de cette fragilité, de se dire, il n'y a rien qui tombe. Et en fait, on s'appelle, entre chanteurs, on se partage nos expériences de d'où tu sors, toi, tu faisais quoi? On t'a proposé quelque chose, tes prods qui sont annulés, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas protégé du tout, que notre contrat de travail, il vaut rien, qu'on a quand même signé un bout de papier avec des articles du code du travail, mais que en fait, c'est la loi du plus fort et que, en fait, c'est... Moi, j'ai du mal à parler d'unisson aujourd'hui parce que je m'en suis éloigné, parce que j'avais repris mon boulot et que moi, je travaille et que je trouvais que ça soit intéressant que ça soit aussi porté par des gens qui sont touchés au plus près par les problèmes dont s'occupe Unisson. Je trouvais que c'était plus légitime et que moi, je n'y avais plus ma place. Mais vraiment, il faut un travail de dingue et bravo à eux parce qu'il y a eu des victoires dans des cas compliqués qui ont été réglés par la justice et c'est bien parce que ça fait jurisprudence et que ça aide beaucoup les chanteurs et que les chanteurs se sentent soutenus et protégés par quelque chose. Et heureusement que ça existe. Et je pense que les chanteurs, pour le grand public, on doit parler. On doit expliquer ce que c'est que notre métier. Qu'est-ce que c'est qu'un intermittent du spectacle? C'est pas un chômeur. Qu'est-ce que ça veut dire ce statut? Et il faut être pédagogue en fait. Et moi, c'était
passé cette semaine en répétition de.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ton cachet? Pourquoi tu gagnes 1000? Pourquoi tu gagnes 2000? Pourquoi tu gagnes 5000? Pourquoi ils gagnent 16000? À quoi ça correspond? Pourquoi? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou en fait. Si on explique ce que c'est qu'un payer son agent, combien de pourcentage sur son cachet, on paye nos logements. Voilà, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui reste, comment on vit, les coachs. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut être honnête et pédagogue et expliquer ce que c'est.
Musique, les grands entretiens de Stanislas de Barbeyrac.
On a parlé un peu de la construction de la carrière, de ce début qui va se construire entre Mozart, Gluck, quelques rôles comme ça aussi, évidemment, dans l'opéra français, un petit peu dans l'opéra italien, pas tant que ça. Enfin, il y a la Traviata, Alfredo. Ouais. Et puis, il y a le répertoire qui arrive. Vous nous avez dit que Lionel Sarrazin avait tout de suite entendu le devenir de votre voix. Il y a des rôles aussi, évidemment, qui permettent d'entendre, en fait, dans un rôle du présent, la voix du futur. Après, il y a avoir la voix d'un rôle et tenir un rôle. Ouais. Ce sont encore deux choses différentes. Vous allez avoir 40 ans dans quelques semaines. Ouais, là, ça vous angoisse. En tout cas, vous n'êtes pas flemmard en termes d'apprentissage. Vous êtes... confronté là récemment, en effet, il y a eu Jason, il y a eu Péléas, qui a été quelque chose de très important, Florestan aussi, un rôle où on attend bien, même
Max Freischütz aussi.
Max, et puis qui arrive là, Sigmund.
Et oui, c'est un peu une étape comme ça l'a été en 2014 en fait, où je passais des seconds plans à faire des premiers plans avec les Mozart, et je me sens bien dans cette transition. Voilà encore une chose très importante quand on fait une transition dans le répertoire, c'est d'avoir une alchimie aussi dans le travail avec des prises de rôle. Et j'ai eu de la chance parce que Florestan avec Laurence Equilbet et David Bobet, ça s'est très bien passé, c'était hyper intéressant.
Et puis vous l'avez fait avec Laurence Equilbet, j'imagine que c'est pas un hasard parce que c'est
quelqu'un... Non, c'est pas du tout un hasard.
Il fallait avoir peut-être cette intimité-là aussi,
exactement.
Avec qui vous avez fait beaucoup de choses.
Ouais, et c'est pour ça que quand on fait des prises de rôle, il faut aussi être stratégique dans ces choix-là. Et ça compte beaucoup parce que ça rassure, parce que ça fait de beaux souvenirs et que ça porte pour l'avenir. Et puis arrive Sigmund, là j'ai eu une expérience déjà de faire le premier acte en concert à Rome. Donc c'était chouette, c'était un peu hélico presto parce que voilà, les périodes pour les concerts c'est toujours très short. Mais c'était chouette quoi.
Là, ce sera donc une tournée avec les forces de Rotterdam, placée sous la direction d'Yannick Nézet-Séguin. Une escale prévue au Théâtre des Champs-Élysées, les micros de France Musique, si je ne me trompe pas, seront là. Ouais. Ce chant-là, wagnérien, ça vous tombe aussi comme un gant
Comme un gant, c'est un peu prétentieux. parce que, mais en tout cas, c'est le gros kiff. C'est vraiment ce que j'ai.
Et c'est le kiff de ce que vous entendez autour de vous, c'est le kiff de ce que vous produisez.
Non, c'est toujours mon kiff à moi. C'est un monde à part, quoi. Par rapport à tout ce que j'ai vécu musicalement jusque-là, en tout cas la Valkyrie, c'était vraiment une expérience. C'est un truc qui englobe, qui arrive de partout. Il faut à la fois être dans la susurration et dans le bruit total. Il y a un lâcher-prise, quoi. Il y a un lâcher-prise musical aussi. Et puis, bah oui, c'est dans mes cordes, je le sens, quoi. Et quand je chantais l'air de Max de Freischütz à Marmande en 2006, je le sentais aussi, quoi. Et les gens me disaient, il est taré, c'est pas pour lui. Évidemment, c'était pas pour moi là, mais bon, en même temps, c'est un air dans un concours. J'aurais jamais eu la prétention à l'époque de dire que je pouvais chanter le Freischütz partout dans le monde, évidemment. Mais je sentais. On sent quand on aborde un rôle et que c'est pour soi. On le sent.
Et c'est une sacrée étape parce que si des rôles en permettent d'autres, des rôles en rendent d'autres caduques aussi.
Ouais, c'est comme ça. C'est pas grave. Et en même temps, il faut être aussi assez smart pour se dire bon, bah, si je commence à chanter Zygmunt, j'ai pas du tout envie de chanter que ça.
Ça veut dire Lohengrin, ça veut dire Tristan?
Ouais, non, ça, j'ai le temps. Tristan, c'est tellement dur. Je l'imagine pas du tout encore. Lohengrin, peut-être. Mais non, je pense pas à ça. Je veux dire que je veux pas aussi abandonner le reste que je sais déjà chanter. Mais c'est vrai.
Est-ce que ça pervertit pas la voix? C'est peut-être un mot fort, mais.
Non, je comprends ce que vous voulez dire. Bah, il faut faire gaffe. Il faut pas aller trop loin et il faut pas s'interdire le reste. Donc ça veut dire que ça impose une gymnastique vocale et une santé vocale et puis aussi d'aborder ces rôles-là avec un geste ancré, réfléchi, pas juste sur l'instinct. Parce que ça marche jamais. Mais non, j'ai pas du tout envie d'abandonner le reste. J'ai envie de chanter encore Don José, j'ai envie de chanter encore Péléas, j'ai envie de chanter encore Fidelio. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre du tout. Il faut rester dans le même moule, ça c'est sûr.
Mais c'est pas le même moule tout ça.
Ce que je viens d'évoquer quand même.
Ouais.
Ce que je viens d'évoquer quand même. Mais c'est sûr que je peux pas...
Et quand vous allez chanter Pilade cet été?
Eh bien, je vais l'inscrire dans ce moule-là. Je me dois de le faire.
C'est-à-dire que vous allez, j'allais dire, placer.
Ouais. Et surtout, je vais pas utiliser ma mémoire de comment j'ai chanté déjà Iphigénie il y a.
En 2016.
Voilà, il y a longtemps. Parce que ma voix a évolué, donc je dois maintenant aborder Iphigénie avec ma voix, quoi. Ça veut pas dire que je vais chanter Iphigénie comme je chante Zygmunt, parce que de toute façon, c'est pas écrit pareil. Mais en tout cas. Techniquement, je dois pas marcher dans Iphigénie avec du 38 alors que je chose du 44.
Cet été au Festival d'Aix-en-Provence, ce sera Iphigénie sur instrument d'époque.
Ouais.
C'est un certain diapason, c'est Emmanuel Haïm, une mise en scène de Dmitri Tcherniakov. Alors là, j'imagine que vous vous attendez à être servi théâtralement.
Exactement. C'est pour tout ça que j'ai dit oui. Parce que j'ai envie de vivre une expérience. Et je sais qu'avec ces gens-là, ce sera le cas. Emmanuel Haïm, je n'ai jamais travaillé avec elle.
Le baroque n'est pas du tout un répertoire que vous avez développé.
Non, c'est vrai, c'est comme ça. Même jeune chanteur, on m'a jamais vu là-dedans, on m'a jamais convoqué là-dedans. Bon, c'est comme ça. J'ai pas d'explication.
Il y a un chef quand même important, un chef français qui d'ailleurs ici, pas loin à Bordeaux, a été important aussi,
ouais.
Qui est Marc Minkowski et qui vous a ouvert, je crois, beaucoup de portes,
ouais.
Des rôles, des lieux, le Festival de Salzbourg, par exemple, c'était avec lui.
Ouais. Covent Garden. Lui aussi. Quand j'ai fait Arbace, parce que j'ai dû jumper, il y a eu un souci ou quoi, c'est lui qui a donné mon nom. Il y a eu plein de choses. Il y a eu toutes ces prises de rôle possibles à Bordeaux, Péléas, Péricole et puis Don José. Et voilà, non, c'est quelqu'un qui compte, hein. C'est quelqu'un que j'ai au téléphone souvent. Et ouais, c'est un ami, quoi.
Et il vous a jamais emmené vers le baroque?
Non, pas vraiment. Il a essayé, mais...
Peut-être pour se quitter, réfléchir à cette idée des personnages que vous incarnez. Vous nous avez bien montré à quel point ce qui était le plus important, c'était d'être un personnage, c'était de raconter une histoire. Et je me posais la question de savoir si jamais épouser tous ces destins différents, mourir sur scène, en faire mourir d'autres, aimer passionnément, en quoi, dans la vie réelle, ce sont des sources d'inspiration?
Ouais, c'est difficile ça, parce que parfois il y a des rôles dont on a du mal à sortir. Il y a des expériences théâtrales où on revient à la maison et c'est très compliqué d'être dans le quotidien. Parce qu'on est encore dans un... Je dirais pas qu'on est encore dans le personnage, mais on est encore dans les effets qui se coulent de ce qu'on vient de vivre en production. Dialogue, à chaque fois, c'était compliqué de sortir des dialogues des Carmélites... Mon expérience de Fidelio, ça a été compliqué de revenir à la maison parce que je me suis rasé la tête, parce que je me suis senti vraiment un mec qui avait passé 2 ans dans un bagne, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette schizophrénie, en fait, qu'on adopte dans notre métier. Mais comme on l'est pas, on s'en sert pour d'expériences de vie, c'est vrai, mais des expériences de vie qu'on a sur scène. C'est-à-dire que c'est entre l'acteur et Stanislas qui partage sa vie pendant les répétitions avec des gens qu'il connaît pas ou des gens qu'il connaît très bien parce qu'on a déjà vécu des productions ensemble. Et c'est tout ce mélange de choses où on revient au réel avec ses enfants, aller à l'école, aller les chercher au foot, à la danse, aller faire ses courses au supermarché, avoir sa liste. Moi, je me sers de tout ça pour prendre du recul, en fait. Me dire que tout ça, c'est fake. J'ai adoré le faire, mais moi, ma vie, c'est ça. Parce que c'est ça que j'ai voulu construire aussi.
Oui, et on garde toujours, on arrive toujours à avoir cette distance.
Il faut, parce que sinon on devient zinzin.
Moi, je me dis, je sais pas, quand on doit tomber fou amoureux dans un opéra, que ça dure des semaines, ça doit pas être facile.
C'est pas facile. Puis ça dépend de qui on tombe amoureux. Ouais, c'est une réalité quand même. Hein. Mais après, ça reste un métier quand même. Et puis ces notions d'amour, ces notions de rapprochement, qui peuvent être sensuels, charnels, avec un partenaire ou une partenaire, c'est là où, de toute façon, à un moment donné, le métier prend aussi le dessus. C'est toujours le baiser, la sensualité, tout ça, c'est très difficile à jouer. Je trouve que ça, c'est le plus dur, quoi. Et c'est toujours difficile quand un metteur en scène vous dit « Ah ben là, tu l'embrasses, mais en fait, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte un truc? Ou alors là, tu dois être torse nu, la nudité, tout ça. » J'ai trouvé toujours que, en tout cas, dans le contexte de l'opéra, c'était toujours difficile à assumer, parce qu'en fait, juste avec une main, une évocation, un regard, ça suffit pour comprendre que c'est sensuel à ce moment-là, que c'est amoureux. Moi, je me laisse jamais, en fait, trop envahir par ça. Parce que parfois, ça dénature le chant aussi.
Et finalement, incarner ces personnages, est-ce que c'est pas aussi se mettre un peu en vacances de soi-même?
Ça, c'est sûr. C'est l'avantage. C'est l'avantage de... Exactement, d'être en vacances de soi-même. C'est très joliment dit. J'aime beaucoup. Je garde.
Un extrait de La Veuve Joyeuse de Franz Léard par Julie Fuchs et Stanislas de Barbeyrac pour refermer cette série de grands entretiens avec Stanislas de Barbeyrac. Réalisation Adrien Roch, prise de son Hervé Dubreuil, mixage Marie Le Peintre, attachée de production Marie-Christine Ferdinand, une série proposée par Judith Chen et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.